Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Une condamnation de principe, mais aucune mesure concrète annoncée. La réunion de la Ligue arabe le week-end dernier au Caire est restée sans surprise. Elle avait pourtant été convoquée en urgence, 3 jours après la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Certains y verront de la prudence, d'autres une façon de se désolidariser des Palestiniens. Ce n'est en tout cas pas l'option choisie par le président turc. Recep Tayyip Erdogan réunit demain à Istanbul un sommet extraordinaire de l'OCI, l'Organisation de coopération islamique. Il promet un tournant dans la réaction des pays musulmans face à la décision des États-Unis. Alors en prenant cette décision, Donald Trump a pris un risque énorme, celui de rompre un fragile équilibre qui permet aux religions monothéistes que sont le christianisme, le judaïsme et l'islam d'exercer leur magistère dans cette ville triplement sainte. Il faut y avoir séjourné pour mesurer la tension et la densité qui y règnent. Jérusalem est unique, mais elle n'est pas la seule où se pose la question de la souveraineté sur les lieux saints, que ce soit entre des religions concurrentes, mais aussi parfois au sein d'une même confession. Ainsi, exemple parmi d'autres, la Mecque en Arabie Saoudite, lieu de pèlerinage pour les musulmans, mais aussi lieu de confrontation politique entre puissances régionales. Alors, ville sainte, une malédiction politique. Et d'ailleurs, je dis ville sainte, on aurait pu, et on va d'ailleurs l'élargir à la question des lieux saints. C'est en tout cas la discussion que nous allons mener ce soir en compagnie de 3 invités, à commencer par vous, Jean-François Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, spécialiste du fait religieux, vous dirigez les éditions du CERF et vous avez notamment publié « Les hommes en trop, la malédiction des chrétiens d'Orient ». C'était déjà en 2014 aux éditions Fayard. Pour discuter avec vous, il est en duplex des studios de France Bleu Héros à Montpellier, Manuel Pénicaud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes anthropologue, chargé de recherche au CNRS, membre de l'IDEMEC, c'est l'Institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative à l'Université d'Aix-Marseille et co-commissaire de l'exposition Lieux saints partagés qui est actuellement présentée à Paris au Musée national de l'histoire de l'immigration. C'est jusqu'au 21 janvier prochain, exposition qui avait d'abord démarré au MUCEM à Marseille. Et puis 3e invité, au téléphone depuis Rome, c'est François Mabille, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur en sciences politiques au sein du groupe Société, Religion, Laïcité au CNRS, ainsi qu'à l'Observatoire international du religieux qui dépend du Centre d'études des relations internationales à Sciences Po. Vous êtes spécialiste de la géopolitique des religions et en particulier de la diplomatie du Vatican. Alors avec vous trois, l'idée ce soir c'est bien sûr de parler de Jérusalem et d'essayer d'étendre la question de la dimension politique des villes saintes et des lieux saints à d'autres endroits justement que Jérusalem. Mais commençons par cette ville puisque c'est elle qui fait l'actualité. Il faut dire donc pour ceux qui l'ignoreraient que sur un territoire extrêmement réduit, Jean-François Colosimo, quelques centaines de mètres carrés, on trouve à la fois le mur des Lamentations, l'esplanade des mosquées, la basilique du Saint-Sépulcre qui sont considérés comme 3 des lieux saints les plus importants pour le judaïsme, pour l'islam et pour le christianisme. Est-ce que cette cohabitation-là a toujours été conflictuelle ?
Elle n'a pas toujours été conflictuelle pour la simple et bonne raison que, en fait, contrairement à l'idée qu'on pourrait se faire, Jérusalem n'a pas occupé une centralité extrêmement forte, sauf à des moments très précis de l'histoire. Alors ces moments très précis de l'histoire, évidemment, ce sont les croisades, d'une part. Et puis, deuxièmement, au XIXe siècle, la fameuse guerre de Crimée, n'est-ce pas, entre la France et l'Angleterre d'un côté et la Russie de l'autre, trouve son occasion dans des rixes entre moines chrétiens, d'un côté orthodoxe, de l'autre catholique, à Jérusalem et à Bethléem, parce que la France est à ce moment-là la protectrice des chrétiens d'Orient catholiques et la Russie la protectrice de ceux qui sont orthodoxes. Donc on le voit, c'est dans le cadre toujours d'une internationalisation, en fait, et de conflits de puissance, conflits quasiment impériaux, que, en fait, Jérusalem redevient, je dirais, un nœud polémique au sens fort, c'est-à-dire un nœud de guerre. Alors, il est évident que depuis la création de l'État d'Israël, le statut de Jérusalem a, encore une fois, basculé et redevenu un enjeu. Pendant très longtemps, en fait, cet enjeu a participé de la question territoriale, politique, n'est-ce pas, du conflit israélo-palestinien. Aujourd'hui, évidemment, avec la montée de chaque côté, israélien et palestinien, de forces religieuses importantes, le Hamas du côté palestinien et de l'autre côté le sionisme religieux du côté israélien, évidemment, Jérusalem retrouve en quelque sorte cette espèce de statut symbolique surdéterminé, dans lequel d'ailleurs les chrétiens ne jouent pas un grand rôle. La position du Vatican, c'est l'internationalisation de la ville, de manière à lui garantir un statut tout à fait à part. Donc comme on le voit, en fait, ne faisons pas une histoire continue, ne voyons pas Jérusalem comme un centre permanent de bataille, ça n'a pas tout à fait été vrai, même si évidemment, d'une part, il y a la dimension symbolique énorme dans le judaïsme de Jérusalem, l'an prochain à Jérusalem, mais on continue à dire, même quand on fête Pessah, Pâques, à Jérusalem, on continue à dire l'an prochain à Jérusalem, Jérusalem physique ou mystique, et de l'autre, évidemment, je dirais, l'invention de la Jérusalem musulmane à partir de la conquête musulmane, qui place en cet endroit-là la fameuse mosquée la plus à l'ouest dont parle le Coran dans le dernier voyage mystique du prophète.
Donc on pourrait presque dire, Jean-François Colosimo, que ce sont les conditions politiques qui contribuent à surconfessionnaliser cette ville, davantage que l'identité qui reste quand même forte religieuse, qui contribue à en faire des conflits politiques. Est-ce que juste d'un mot pourrait résumer ça comme ça ?
D'un mot et très vite, oui, si vous acceptez de concevoir que en Orient... Et on y est là, en Orient, pour tout le monde, on y est, pour les chrétiens, pour les Israéliens et pour les Palestiniens. En Orient, il n'y a pas de distinction entre religion et politique. Il faut bien comprendre que la religion, c'est la forme la plus absolue de la politique. Si on comprend ça, et si on admet ça, alors on peut comprendre la surdétermination symbolique actuelle.
François Mabille.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-François. À travers l'histoire, effectivement, la ville de Jérusalem n'a pas la même importance qu'elle a aujourd'hui. Et il faut effectivement revenir au conflit israélo-palestinien, ce qui se passe depuis 1948, pour que le statut de la ville de Jérusalem devienne une question particulière. C'est vrai, bien évidemment, pour l'État d'Israël. Et je dirais que d'une certaine manière, la décision de Trump n'est pas vraiment... C'est à la fois un renfort si on le veut. En même temps, vous voyez bien qu'il y a une sorte d'unanimité internationale pour condamner cette position. Mais pour le gouvernement israélien, ça n'apporte pas grand-chose de supplémentaire puisque c'est une revendication qui est déjà ancienne, qui date de 1980. Et du côté du Saint-Siège, puisque c'était évoqué il y a un instant, c'est une question qui est également déjà ancienne, puisque le pape Jean-Paul II a évoqué le statut propre de la ville de Jérusalem dans une lettre de 1984. Donc il y a là une difficulté qui est déjà effectivement ancienne, mais je dirais que pour l'instant, la décision de Trump n'apporte pas quelque chose radicalement nouveau. Il s'agit d'une déclaration. On n'est pas la première déclaration assez étonnante de Trump. On en ignore aujourd'hui la portée. On sait bien que la décision de déplacer l'ambassade prendra quelques années. Donc on est plutôt dans une législation, sauf à comprendre qu'il y a une sorte de question dans la temporalité des relations internationales. Et que là où la plupart des États forts de la communauté internationale penchent encore pour... deux États, eh bien, Israël et les États-Unis prennent appui sur la réalité.
Alors, François Mabille, on va peut-être essayer de vous rappeler sur un autre numéro, parce que là je sens que la liaison, là, on est progressivement en train de vous perdre, même si vous étiez quasiment au terme de votre intervention. Je voudrais avoir l'avis de Manuel Pénicaud, et peut-être au-delà, peut-être pour aller un petit peu plus loin dans la discussion. Je rappelle donc que vous êtes le co-commissaire de cette exposition qui s'appelle « Lieux saints partagés en Europe et en Méditerranée ». Est-ce qu'on peut dire qu'en tout cas, que Jérusalem, dans ces lieux saints partagés, et vous allez peut-être aussi d'ailleurs nous expliquer ce que vous entendez par « lieux partagés », est-ce que Jérusalem a vraiment une place à part, une place unique aujourd'hui?
Alors, par lieu saint partagé, nous entendons l'idée de sanctuaires qui sont dotés d'un rayonnement spirituel important. Donc, évidemment, à Jérusalem, ce sont des lieux principiels pour les trois monothéismes et qui, malgré les idées reçues parfois ou les représentations de blocs étanches et monolithiques, en fait, souvent, de nombreux lieux sont visités par des fidèles de religions différentes. Ça a été le cas en Terre Sainte et même à l'échelle de la Méditerranée pendant des siècles. Et Et en fait, le point de bascule est effectivement la fin du 19e siècle et du 20e siècle, au moment de la montée aussi des nationalismes, des identités aussi religieuses qui se sont endurcies et évidemment des conflits qui ont déjà été évoqués précédemment. Mais jusqu'au 19e siècle, l'Empire ottoman s'est montré relativement inclusif envers les minorités religieuses et qui garantissait, même sous le statut de protégé, de dhimmi, en fait, une liberté de culte. Donc ça, c'est un point important. Et il arrivait dans des relations aussi de voisinage, les gens habitant dans des quartiers et à proximité, que les gens franchissent la frontière religieuse pour aller faire un vœu, pour demander une grâce, une guérison. Et ça, c'est un phénomène, c'est le dénominateur commun en fait que nous essayons de souligner dans cette exposition, pour aussi dire que l'hostilité interreligieuse en fait n'est pas du tout dans l'ADN des systèmes religieux.
Vous en parlez au passé, Manuel Pénicaud. Est-ce que ça veut dire que ces lieux-là, aujourd'hui, des lieux ouverts, n'existent plus, ou bien est-ce qu'on ne les voit pas, ou est-ce qu'on les voit moins parce que justement, peut-être qu'ils posent moins de problèmes et qu'ils sont moins des objets politiques comme peut l'être Jérusalem?
Alors, ils existent, au contraire, et c'est bien ce qu'on montre dans cette exposition, au présent, en Turquie, au Maghreb encore un peu, dans les Balkans aussi, et en Terre Sainte, mais évidemment, là, il y a un rétrécissement, il y a une forme peut-être de déclin ou de fermeture de nombreux lieux saints qui se referment sur eux-mêmes, en fait, et au nom d'appropriations et de revendications souvent politiques. On pourrait citer donc l'esplanade des mosquées ou du Mont du Temple, on va y revenir, sans doute, mais aussi le tombeau de Rachel, le tombeau de David, sont des lieux qui cristallisent, en fait, qui polarisent les tensions les plus vives du conflit israélo-palestinien. Depuis 48, ces lieux sont des poudrières, en fait. Tout est miné, et pour reprendre un mot de Jean-François Colosimo, tout est surdéterminé dans cette Terre Sainte et à Jérusalem.
Jean-François Colosimo.
Oui, je pense que, évidemment, il est très important de montrer, l'exposition le montre, que il y a une histoire complexe. Elle est d'autant plus complexe, cette histoire, et certainement les représentations de monde purement étanche, hostile, enfin, etc., est fausse. Elle est d'autant plus, je dirais, cette histoire compliquée, qu'en fait, elle l'est véritablement entre ce qu'on appelle par commodité les trois monothéismes, judaïsme, christianisme, islam, mais je vous rappelle que, et pour les juifs et pour les musulmans, le christianisme n'est pas un monothéisme en raison de la Trinité. C'est quand même important de le dire pour pas qu'on réduise tout. Là, évidemment, il y a un empilement. Il y a un empilement de lieux, il y a un empilement de figures, il y a un empilement de représentations. Il y a une espèce de généalogie qui se forme entre les trois. C'est un peu comme de l'ADN mutant, quoi. Alors évidemment, on se retrouve. Mais dans d'autres régions du monde, par exemple, il y a quand même très peu de lieux partagés. Dans ce sens-là, entre musulmans et hindous, dans le subcontinent indien, par exemple. Alors, cet empilement, il ne peut pas nous exonérer de la question, à savoir que oui, dans l'Empire ottoman, il y avait une relative tolérance, n'est-ce pas ? Mais il y avait un maître, il y avait un propriétaire, il y avait des propriétaires. Parce qu'effectivement, si les lieux peuvent être visités, surtout dans le cadre de la religion populaire. Quand je dis religion populaire, on sera d'accord avec notre ami Manuel Pénicaud, ce n'est pas du tout péjoratif. La religion populaire, c'est le contraire de péjoratif. Évidemment que lorsqu'il y a une figure de sainteté, qu'il y a un lieu de miracle, évidemment qu'il va y avoir ce que Manuel appelle des visites, n'est-ce pas ? Mais dans le même temps, à la fin, la question c'est de savoir qui est le propriétaire. Je suis désolé de cette expression, mais en Terre Sainte, et c'est vrai, par exemple, laissons les juifs et les musulmans de côté, entre chrétiens de confessions différentes, catholiques, orthodoxes principalement, avec les arméniens par-dessus à Jérusalem, la question c'est que en Terre Sainte, Dieu est quand même un peu un agent immobilier, parce que qui a la terre à l'origine?
Mais ça veut dire que, selon vous, il ne peut pas y avoir autre chose que un propriétaire. Et imaginez, par exemple, pour Jérusalem, un statut qui soit une ville qui serait administrée, par exemple, par les Nations Unies, c'est-à-dire qui serait un territoire hors sol, hors Israël. C'est quelque chose qui n'a peut-être jamais existé, mais qui ne pourrait pas exister.
Tout peut exister en hypothèse. La vérité, c'est que ce que vous dites, les Nations Unies, c'est plutôt la proposition du Saint-Siège, c'est-à-dire du Vatican, internationalisation, garantie, etc. Et surtout parce qu'aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui, en quelque sorte, dans le face-à-face entre le monde juif et le monde musulman, entre le monde israélien et le monde palestinien, tout ça ne se recouvre pas parfaitement, parce qu'en plus, il y a des Palestiniens qui sont agnostiques, et il y a des Israéliens qui le sont également. Mais malgré tout, ce sont les chrétiens qui sont le plus, je dirais, mis à mal, dans le sens où eux, ils n'ont pas de recours réel. Ils sont partagés, d'ailleurs, entre les deux mondes.
Bon, ils peuvent pas revendiquer une souveraineté politique sur un territoire, contrairement, voilà, aux Palestiniens et aux Israéliens.
Mais là où on en est, juste pour conclure sur ce point, c'est une pure utopie. Parce que moi, je proposerais plutôt que le Conseil de sécurité des Nations Unies aille de temps en temps siéger à Jérusalem. Je vous jure que leur résolution irait plus vite, n'est-ce pas?
Alors, François Mabille et Emmanuel Pénicaud veulent intervenir l'un et l'autre. On va commencer par François Mabille.
Oui, très rapidement, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Jean-François Colosimo. Historiquement, à ma connaissance, en dehors de Tanger, de la zone de Tanger qui a été internationale pendant une brève période de 1925 à 1956, je crois, on n'a pas d'autre exemple historique d'une ville qui fasse l'objet finalement d'un statut international. Et même lorsque c'est le cas, puisque c'était cet exemple-là à Tanger, il y a bien évidemment une codirection qui se met en place, et notamment en ce qui concerne le contrôle policier. Le deuxième point, effectivement, l'internationalisation de la ville sainte ou un statut international de Jérusalem qui est revendiqué par différentes instances, dont le Saint-Siège, personne n'en a jamais défini exactement les contours.
Un statut international pour les villes saintes, du coup, c'est quelque chose qui serait compliqué à mettre en place pour vous, François Mabille?
Alors, je ne vois pas aujourd'hui comment ça peut se faire, sauf effectivement à confier cela à l'ONU, et ça pose un certain nombre de problèmes, à commencer par la question de sécurité. Il n'y a pas de force permanente de l'ONU, donc il faut des soldats, alors appelons-les des soldats de ville sainte, je ne sais pas comment appeler ça. Je ne vois pas concrètement quelle forme cela peut prendre, si ce n'est que éventuellement on fait un partage de tâches entre différents États, mais ça ne s'est absolument jamais vu. Ce qui est important par derrière, c'est la question du régime de tolérance qui est accepté sur le territoire.
Emmanuel Pénicaud.
Alors, sur l'internationalisation, juste un mot, j'ai relu la résolution de l'ONU de 49 et qui parle bien justement de corpus separatum, donc c'est un régime d'exception reconnu par le droit international mais qui n'a jamais été appliqué, et c'est d'ailleurs parce que ça serait un tel lieu international qu'il ne peut pas y avoir d'ambassade à proprement parler, donc pour revenir un peu à l'actualité de Trump. Je voulais juste revenir un mot pour répondre à Jean-François Colosimo, que je salue, mais qu'il y a au contraire, à ce que je sais en tout cas, de nombreux lieux partagés en Inde et au Pakistan entre hindous et musulmans, enfin surtout en Inde, pardon. Nous avons, pas au Pakistan, mais nous avons des collègues qui travaillent véritablement sur ces cas. Et sur la question de la propriété dont il a parlé, c'est l'administration des lieux, parce que les propriétés changent justement par des revendications. Il y a la convoitise d'institutions, d'appareils politico-religieux pour asseoir la domination sur des lieux saints, et donc on revient à Jérusalem. Mais en même temps, le phénomène dont on parle, de cette religiosité populaire, justement, les gens ne sont pas dans une revendication. Souvent, ce qu'on observe avec mon collègue Dionigi Albera sur le terrain, encore même à Bethléem aujourd'hui, beaucoup de musulmans et musulmanes vont visiter et prier parfois à leur façon dans la basilique de la Nativité, et ils ne contestent pas la christianité de la basilique de la Nativité. Ça arrive même au Saint-Sépulcre. On croise des musulmans et des musulmanes allumer des cierges au Saint-Sépulcre quotidiennement, en toute discrétion.
Ce qui compte, c'est quoi? C'est la question de l'accès, alors, du coup?
Là, dans ce cas-là, c'est ouvert. Les musulmans ont accès, le Saint-Sépulcre, il n'y a pas de checkpoint, etc. Ce qui est le cas dans les autres lieux saints de Jérusalem, en tout cas le mur des Lamentations ou l'esplanade des mosquées, on ne peut entrer qu'au prix d'un strict contrôle sécuritaire. Mais la question de la propriété, c'était pour la nuancer avec l'autre démarche, qui est une démarche beaucoup plus individuelle, où les gens sont mus par une efficacité, par un désir peut-être de guérison, par exemple, et donc ne contestent pas la propriété d'un lieu.
Si la question de la propriété n'est pas forcément quelque chose qui est revendiqué par la communauté des croyants, est-ce qu'on peut dire qu'en tout cas, c'est un enjeu qui est politique? Jean-François Colosimo, et j'adresse la même question également à François Mabille, à Emmanuel Pénicaud, est-ce que le fait d'avoir sur son territoire une ville sainte ou un lieu saint, ça peut être un élément de pouvoir politique, ça permet de peser?
D'abord, bon, on reste depuis tout à l'heure sur, et certainement ce seront les meilleurs exemples, on pourrait aller en en Syrie, au Liban, en Turquie, etc., on reste sur l'Empire ottoman qui, aujourd'hui, est largement décomposé ou peut-être réapparaît, mais alors de manière beaucoup plus conflictuelle qu'on ne l'a connue. La vérité de Bethléem, c'est qu'il y a un maire chrétien à Bethléem parce que la majorité désormais écrasante arabe en a décidé ainsi. La vérité de Bethléem, c'est pas de savoir si des musulmans viennent, entrent dans la basilique pour demander quelques guérisons, miracles ou juste par curiosité. Parce que la loi de la religion, c'est pas celui qui est le plus loin qui est votre ennemi, c'est celui qui est le plus proche, n'est-ce pas, ou votre adversaire. À Bethléem est toujours sur le fameux statu quo décidé au XIXe siècle, de savoir quels sont les droits des uns et des autres chrétiens qui célèbrent dans la basilique et qui s'affrontent à coups de poing encore aujourd'hui. Donc, il ne faut pas forcément non plus voir les grandes unités. Et finalement, oui, finalement, il est beaucoup plus facile peut-être d'être en paix avec un musulman qui passe de temps en temps qu'avec, par exemple, pour un orthodoxe, avec un catholique, le fait d'avoir à partager réellement le lieu au quotidien et d'avoir des rites différents. Peut-être des dogmatiques différentes.
C'est encore plus le cas d'ailleurs pour la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. On sait qu'il y a eu quand même quelques bagarres entre les différentes, je sais pas comment il faut dire. D'ailleurs, François Mabilly, vous allez peut-être nous aider. Différentes églises,
confessions
au sein du christianisme, pour gérer
très
justement
églises,
cette basilique.
13 églises à Jérusalem. Il est plus difficile finalement à Jérusalem d'être dans ce qu'on appelle l'œcuménisme, la recherche de l'unité des chrétiens. Même si parfois ces chrétiens souffrent ensemble des mêmes problèmes, mais même pour ça, les réunir est plus difficile que finalement faire du dialogue interreligieux de très haut niveau dans les universités.
François Mabilly, c'est plus facile de faire de l'interreligieux que de faire de l'œcuménisme. Je sais bien, mais je pense que François Mabilly aura compris que c'était un petit peu
provocateur.
Oui, il n'y a aucun problème. Oui, effectivement, c'est particulièrement difficile entre les chrétiens également et de longue date à Jérusalem. Pour revenir à votre question initiale, à savoir le lien entre les lieux saints et puis la puissance des États, je pense qu'il faut bien distinguer ce qu'on appelle lieu saint. Dans le cas de Jérusalem, bien évidemment, ce qui pose problème, c'est que vous avez affaire à l'origine de religion, et donc c'est un caractère absolu que vous ne retrouvez pas dans ce qu'on appelle également d'autres lieux, des lieux saints qui sont plus des lieux de pèlerinage, où l'accès aux fidèles peut être facilité pour différentes raisons. Alors, le lien avec l'État, tout dépend, je dirais, de la nature de l'État. Vous avez finalement deux cas de figure. Soit l'État lui-même relève d'une religion particulière et il peut y avoir une utilisation des lieux saints dans le cadre de ce qu'on appelle le soft power, une capacité d'influence, alors culturelle, religieuse en l'occurrence. Et puis, vous avez des endroits, je pense, puisque je suis à Rome, au Vatican, bien évidemment, où pour l'État italien, eh bien, il y a là une rente assez intéressante sur le plan touristique. Mais vous voyez qu'on est sur deux cas de figure extrêmement différents. Il y a un troisième aspect qui peut être plus intéressant, c'est qu'on voit depuis 1900, grosso modo les années 90-1998, le facteur religieux revenir en force dans la politique étrangère de certains États. Et là, il y a un élément qui est peut-être plus important et plus inquiétant à prendre en compte.
S'agissant du premier cas de figure que vous évoquez, François Mabille, donc le fait que des lieux saints ou des villes saintes soient des éléments de soft power pour les États, est-ce qu'on pourrait dire que c'est valable, par exemple, aujourd'hui pour l'Arabie Saoudite, avec deux des principaux lieux saints de l'islam que sont La Mecque et Médine, pèlerinage à La Mecque, et on a l'impression, en tout cas, que le pouvoir saoudien d'abord s'en sert comme instrument de légitimation, et puis également pour favoriser ou sanctionner certains pays de la région selon qu'ils sont pro-saoudiens ou qu'ils vont à l'encontre des intérêts de l'Arabie saoudite. Je pense bien sûr aux Iraniens, mais également au Qatar, avec pays avec lequel l'Arabie saoudite a eu quelques conflits dernièrement.
Oui, c'est tout à fait ça, effectivement. Il y a là un argument et un facteur de légitimité, en tout cas, qui est perçu et avancé comme tel, et qui entre totalement dans la politique régionale de l'Arabie saoudite, et qui est un des instruments plus dans sa politique étrangère, plus globalement, effectivement.
Manuel Pénicaud, le poids politique des lieux saints, en tout cas l'intérêt que représentent les lieux saints d'un point de vue politique, c'est quelque chose qui est important justement dans leur gestion.
Oui, tout à fait. Alors, nous, pour revenir nous travaillons, je dis nous parce que je travaille donc, je le répète, avec Dionigi Albera sur ces questions-là. Nous travaillons au départ plutôt sur ces lieux de pèlerinage évoqués par François Mabille, qui sont des lieux souvent plus périphériques et secondaires, justement, qui sont moins marqués, qui sont moins minés ou saturés de sens que ceux que nous évoquons aujourd'hui. Mais il ne fait pas de doute que le rayonnement spirituel participe pleinement de la puissance et du rayonnement politique aussi des États concernés. Et aussi, il y a toute la dimension économique qu'évoquait François Mabille, auquel je souscris. C'est toute la dimension de pèlerinage, justement, pour la Mecque ou Jérusalem, mais Rome aussi, où ce sont des flux et une manne financière immense qui alimente l'économie et les économies locales. Et ça, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Ça a été le cas pendant des siècles. Et en fait, ça a contribué aussi à façonner l'importance économique de ces villes. Le monde ancien était parcouru, tramé de routes de pèlerinage qui convergeaient vers Saint-Jacques-de-Compostelle, vers la Mecque, etc.
Jean-François Colosimo.
Oui, je crois aussi quand même qu'il faut voir les choses comme elles se produisent. La Mecque n'est pas partageable par les chrétiens et les juifs parce que simplement, ils n'y sont pas admis. C'est le premier point. Dans cette même Mecque, dès 1979, alors que l'imam Khomeini apprend le pouvoir à Téhéran, se produit un massacre des chiites, lesquels sont accusés par les Saoudiens de vouloir prendre la Mecque. Vrai, faux, je vous rappelle d'ailleurs que ce sont nos gendarmes du GIGN, n'est-ce pas, qui ont réglé cette prise d'otage ou pas, enfin on ne sait pas qui était l'otage de qui dans l'affaire. Mais cette même Mecque, elle est reconquise sur la dynastie des Saouds, qui apparaît en fait après son alliance avec le fameux Al-Wahhab, ça donne le wahhabisme à la fin du 8e siècle, par le sultan Mahmoud II vers les années 1820-1830. Pourquoi ? Parce que même au sein de l'islam, quand on est arabe, on ne veut pas d'un turc, n'est-ce pas, comme calife. Et donc, pour les temps, les deux sont musulmans et sunnites. Alors, les sunnites s'opposent aux chiites, mais les arabes sunnites s'opposent aux turcs sunnites. Et la preuve, c'est ce que vous disiez à l'entrée de l'émission, c'est que la Ligue arabe, parce qu'aujourd'hui, l'Arabie saoudite est prise dans l'alliance entre Trump et Netanyahou, c'est aussi simple que ça, avec le Mohamed Ben Salman, qui se veut le grand réformateur du royaume, n'est-ce pas, ne fera rien pour les Palestiniens, qui sont mis à la souffrance par les Arabes très souvent, il faut quand même le dire. Et deuxièmement, Monsieur Erdogan, au nom de l'islam non-arabe, en quelque sorte turc, et qui, lui, joue la carte des frères musulmans internationaux, mais aussi la carte de sa turquité, eh bien, il veut réparer ce que les Arabes n'ont pas fait. Donc, voyez bien que quand on parle de partage, de scission, les partages et les scissions, plus on est dans la proximité, plus le partage devient difficile et plus la scission devient maximale. Donc, il est très facile de partager avec qui n'est pas vous. Et très, très, très difficile de partager avec quelqu'un qui commence à vous ressembler. Et la notion de sanctuaire, c'est exactement ça. La notion de sanctuaire, c'est la notion de séparation. C'est-à-dire, dans le sanctuaire, n'entre pas l'infidèle, l'hérétique, l'impur, enfin, etc. Quand ça se passe, ce que montre l'exposition, c'est qu'en fait, on est sur un registre, en fait, effectivement, de périphérie, où finalement, il n'y a qu'un pèlerinage pour tous, d'autant plus si on est sur un bassin de population où il y a eu des conversions, des autres usages, et où finalement, je dirais, il n'y a jamais eu de finition, en quelque sorte, de la dogmatisation des pratiques, etc., qu'on est encore un peu dans le flou. Voilà. Ce flou peut être tout à fait désirable, mais il n'est pas si fréquent.
Manuel Pénicaud.
Oui, je voudrais juste nuancer que, en disant que justement cette religiosité dont on parle, qui se distingue bien des dogmes en fait, hein, donc ça se situe dans ces chemins de traverse par rapport au boulevard, au grand boulevard des orthodoxies qu'on vient d'évoquer, et donc ces grands pôles, ces grandes villes, mais ces phénomènes sont finalement particulièrement présents. Et si on fait un peu un pas de côté, et c'est un peu toute l'idée de faire un pas de côté par rapport à la Terre Sainte, on peut trouver des lieux tout à fait importants avec des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui n'appartiennent pas à une religion et qui sont accueillis justement dans une dimension d'hospitalité. Et je voudrais dire un mot sur cette idée d'hospitalité qui est fondatrice dans les trois monothéismes, dans les textes du coup, hein, notamment à travers la figure d'Abraham qui reçoit des anges ou des trois visiteurs dans la chaînée de Mambré. Donc Mambré, c'est à Hébron, donc on est au cœur là du chaudron palestinien. Mais cette hospitalité, elle est fondatrice. Et donc les sanctuaires peuvent être plus ouverts. Et certains sont plus fermés. Donc, il y a une palette, si vous voulez, de possibilités. Et en fait, ce sont les administrateurs et les gens qui gèrent ces lieux qui vont ouvrir ou moins leurs portes, en fait. Et donc, par exemple, à Istanbul, le 23 avril, pour la fête de Saint-Georges, il y a des dizaines de milliers de musulmans qui se rendent dans un monastère grec orthodoxe. Et les moines orthodoxes, donc, acceptent et accueillent. Et les musulmans sont dans l'église et pratiquent leurs vœux de façon très spontanée. Et donc, il y a une relation d'hospitalité qui se fait là. Les portes ne sont pas fermé. Et donc l'hospitalité, le revers de l'hospitalité, c'est l'hostilité, justement. D'ailleurs, c'est la même étymologie. Donc ce sont les deux faces du rapport à l'autre, où on est dans un rapport d'ouverture et où dans un rapport plus de fermeture.
Justement, vous avez évoqué le cas d'Hébron, donc en Cisjordanie. Alors, un lieu de très haute tension, hein, justement, aujourd'hui, depuis déjà quand même quelques années. C'est là que se trouve le tombeau des patriarches. Pourquoi ce lieu-là est devenu un lieu fermé? Est-ce que ce sont uniquement des raisons, disons, d'ordre politique qui peuvent expliquer que cette notion d'hospitalité soit si peu présente à Hébron?
Manuel Pénicaud. C'est tout à fait le paradoxe. Oui, c'est tout à fait le paradoxe. C'est un lieu qui devrait célébrer la philoxénie, c'est-à-dire l'amour de l'étranger, l'amour de l'autre, ou l'amitié de l'autre, sachant que même Abraham s'appelle Al-Khalil, c'est-à-dire le nom, c'est l'ami de Dieu en arabe. Et d'ailleurs, il y a un monastère russe orthodoxe qui maintient le souvenir de cet arbre, de ce chêne et de cette hospitalité fondatrice. Mais en même temps, le caveau des patriarches est partitionné. Donc, il y a cette polysémie du partage, qu'on entend bien comme partage, mais aussi comme partition. Et depuis 67, le caveau des patriarches est coupé en deux et parcouru de parois blindées depuis d'ailleurs 94, depuis un attentat notoire et tragique. Et donc c'est un peu le paradoxe de ces grands lieux saints, donc qui devraient être des lieux promouvant, enfin qu'ils pourraient en tout cas d'un point de vue utopique promouvoir donc l'abrahamisme, prôner ces valeurs d'ouverture qui en fait sont complètement dans la fermeture et dans le repli et même dans la division et dans le conflit.
Voilà, l'attentat que vous évoquez, ce sont des fidèles musulmans qui ont été assassinés par un colon israélien. Je vais vous faire réagir, Jean-François Colosimo, mais on repasse un petit tour du côté de Rome avec François Mabille.
Oui, merci. C'était pour aller dans le sens de ce que disait à l'instant Manuel Pénicaud. Concernant ces lieux saints, on se polarise effectivement sur ce qui est conflictuel. Et il ne faut pas oublier que par ailleurs, il y a les régimes de tolérance. Les régimes de tolérance, ils sont à la fois, je dirais, relevant de politiques publiques éventuellement, ou même d'accords, de relations entre les religions. En ce qui concerne les chrétiens, vous avez le communisme, vous avez le dialogue interreligieux entre les religions. On pourrait parler du Parlement mondial de Chicago, qui est assez ancien. Et puis, il y a liberté de conscience, de religion, et la quatrième dimension qu'a cité Manuel Pénicaud, qui est celle de l'hospitalité, avec effectivement les réserves qu'on peut y trouver. C'est-à-dire qu'on donne l'hospitalité, mais il y a toujours un certain nombre de limites à cette hospitalité, et qui renvoie effectivement à cette notion de sanctuaire, qui est ce qui est séparé. Ce qui est séparé, c'est la limite entre le pur et l'impur, et le sacré et le profane, et avec toutes les tensions qu'on peut y mettre.
Je voudrais juste vous citer, avant de poursuivre la discussion avec vous, Jean-François Colosimo, une phrase de Régis Debray. C'est un extrait d'un dialogue qu'il avait eu avec Elie Barnavi et Leïla Chaïd. C'était justement en marge de l'exposition Lieux Saints Partagés, lorsqu'elle était au MUCEM, donc c'était en 2015. Il disait notamment ceci, enfin je trouve que c'est une formule qui résume, c'est bien en tout cas, qui peut résumer une partie de la discussion qu'on a ce soir. Il dit « La politique, c'est le compromis, le sacré est non négociable, il est criminogène. » Ce qui va peut-être aussi un petit peu à l'encontre de ce qu'on dit ce soir, c'est-à-dire que le problème, il vient davantage de la confrontation entre différentes religions et plutôt une absence de régulation politique que de l'inverse.
Non, encore une fois, il ne s'agit pas d'être manichéen et de passer d'une situation où la religion n'est que finalement pathologique à une situation où elle ne serait que bénéfique, n'est-ce pas ? Elle est comme tous les phénomènes humains. Alors évidemment, Régis Debray, il a parfaitement raison sur l'essence du sacré est criminogène, bien entendu. En même temps, pourquoi est-ce qu'il en va ainsi? Parce que dans l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, des 10 000, 20 000 Turcs qui débarquent dans un monastère d'une île turque et qui sont accueillis par des moines grecs, il faut quand même aussi dire l'histoire qui est derrière, à savoir l'expulsion des Grecs d'Asie mineure en 1923, l'expulsion continue des Grecs d'Istanbul de 1923 à aujourd'hui, le fait que le patriarche œcuménique de Constantinople, le chef spirituel de 250 millions d'orthodoxes dans le monde, n'a pas de statut légal, qu'il est légalement et qu'il est étatiquement persécuté aujourd'hui, le fait que effectivement, je veux dire par là, il y avait une quelconque force dans cette convivialité plutôt ou hospitalité parfois forcée, si elle avait une force politique, eh bien elle ne se démontre pas, au moins en Turquie. Ce qui veut dire donc qu'on a deux ordres assez différents. Enfin, évidemment, ces Turcs, qui sont aujourd'hui musulmans, peuvent très bien être les héritiers de Grecs, d'Arméniens, de Lazes, de tout ce qu'on voudra, de tous ces peuples sur lesquels s'est édifiée la citoyenneté turque, qui n'existe plus aujourd'hui. Ils portent peut-être une mémoire plus ancienne d'avant leur conversion, en quelque sorte. Donc, ne faisons pas non plus d'essentialisation, ni d'un côté, ni de l'autre, mais à chaque fois, il faut refaire l'histoire, en fait. Et il faut voir la totalité du film, n'est-ce pas? Et pas s'arrêter sur une image. Parce que, particulièrement en Orient, les bourreaux d'aujourd'hui sont, en fait, les victimes de demain, et réciproquement. Mais Régis Debray, bien sûr, citons aussi Woody Allen, si vous me permettez, avec grand respect pour Régis Debray. N'est-ce pas, dans le royaume de Dieu, le loup vivra avec l'agneau, mais à tout faire, je préfère être le loup. Manuel. Les régimes de tolérance n'empêchent pas les dissymétries de situations parfois dramatiques, même quand on se retrouve pour des fêtes et des pèlerinages.
On est presque au terme de cette discussion entre vous trois. J'aurais encore une question à vous poser, à poser en particulier à François Mabille, par rapport... donc vous êtes à Rome, il y a donc le Vatican. Vous disiez tout à l'heure que ça pouvait être aussi un instrument, disons, de pouvoir pour l'Italie, mais est-ce que ça ne peut pas aussi être une forme de contrainte que d'avoir ce type-là d'État sur son propre sol, de contrainte pour la politique qui est menée quand on est à la tête d'un gouvernement italien? On ne peut pas faire non plus ce que l'on veut, en tout cas on ne peut pas totalement déplaire au Vatican et à son numéro un, à savoir le pape François.
Alors oui, je ferai néanmoins une distinction entre la politique étrangère et la politique intérieure. Le fait d'avoir effectivement le Vatican comme enclave, et c'était négocié pendant de nombreuses décennies sur son propre territoire, qui plus est à Rome et à une portée de roue du Quirinal, ça ne facilite pas les choses pour les gouvernements italiens successifs, en tout cas depuis peut-être 20 ans, sans doute avant, avec la démocratie italienne était beaucoup plus à nuancer. En revanche, en termes de politique étrangère, nous, je crois que c'est plutôt un avantage. On a vu dans un certain nombre de conflits récents, les deux diplomaties travailler plutôt de concert et de manière à la fois discrète et intelligente.
Voilà, c'était plutôt effectivement en matière de politique intérieure que je vous posais la question, notamment peut-être sur un certain nombre de réformes sociétales avec le poids de l'Église catholique qui peut justement peser sur certaines décisions gouvernementales. Un dernier mot, Emmanuel Pénicaud, à propos de cette exposition donc qu'on peut aller voir actuellement au Musée national de l'histoire de l'immigration, lieu saint partagé en Europe et en Méditerranée. S'il y avait un message que vous souhaiteriez que les visiteurs qui y vont retiennent, ce serait lequel ?
Alors, il ne s'agit pas nous ne sommes pas dans le dialogue interreligieux, il ne s'agit pas de faire de l'irénisme, de dire que tout le monde est beau et que tout le monde est frère, pas du tout, puisque justement, c'est de montrer une palette d'interactions qui vont de l'ouverture à la fermeture, de l'hospitalité à l'hostilité. Et ces lieux-là, qui sont mineurs, hein, c'est vrai, par rapport à la géographie, à la topographie du sacré, en tout cas en Méditerranée, ces lieux, quelque part, dérangent aussi. Et ces lieux sont menacés et sont souvent aussi, d'ailleurs, la cible d'attentats, la cible tragiques. Donc, on pourrait parler en Syrie, etc. Donc, allez voir l'exposition, nous parlons de tout ça.
Voilà, c'est jusqu'au 21 janvier 2018, donc au Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris. Il y a également un catalogue qui est édité par Actes Sud. Merci beaucoup Manuel Pénicaud, merci à François Mabille et merci à Jean-François Colosimo d'avoir participé à cette discussion que vous pourrez réécouter comme tous les jours sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Fanny Richet, Antoine Tricot, Virginie Leduot, Antoine Dulster et Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son ce soir, Théo Gomard.